franceinter.fr.
Bonjour. Faut-il interdire les néonicotinoïdes pour sauver les abeilles ? Cette question est actuellement en débat au Parlement. Cette semaine, le Sénat a rejeté l'interdiction en France de cette famille particulière de pesticides, alors que l'Assemblée nationale, elle, avait voté pour cette interdiction sur proposition de deux députés socialistes, Delphine Batho et Gérard Bapt, que vous entendrez à la suite de ce reportage. Le débat n'est donc pas clos et nous en profitons ce matin pour vous parler à nouveau du sort des abeilles. Depuis le milieu des années 90, elles meurent en masse. 30% des colonies disparaissent chaque année en moyenne. Ce n'est pas seulement un problème pour les apiculteurs et la filière du miel, c'est un enjeu important pour la biodiversité, car les abeilles contribuent à la pollinisation et à la reproduction de près de 80% des plantes à fleurs. Quelles mesures prendre ? Les pesticides sont-ils seuls en cause ? Corinne Cutillat est allée à la rencontre d'apiculteurs du Sud-Ouest. Voici son reportage « Comment sauver les abeilles ?»
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous me prénomme Patrick Simon. J'habite à Isoges, un petit village gersois de 60 habitants. Et comme je suis à la retraite, je m'occupe d'abeilles. Voilà, ce qu'on appelle communément apiculteur. Voilà, cela fait 3 ans que je pratique cet art. Et je prends beaucoup de plaisir.
Il y avait du miel de réforme ici.
Donc ce que je vous propose, nous allons faire une visite de printemps au rucher de Fargarotte. Donc pour ça, j'ai mis un peu de combustible dans mon souffleur. Et on va s'approcher de la ruche. Bon, là, il n'y a pas trop d'abeilles parce qu'elles dorment. On va enlever le cadre. Le couvre-cadre. Et on aperçoit les cadres. Donc, on enfume légèrement pour calmer les abeilles. Donc là, on va ouvrir avec une pince spéciale. On va tirer les cadres. Et on s'aperçoit délicatement qu'il y a, c'est rempli d'abeilles. Il y a des nids à faux bourdons, c'est-à-dire que c'est une colonie apparemment qui n'est pas malade. On regarde les autres cadres. Il y a du pollen, il y a du miel. On va tirer un autre cadre, c'est pareil. Pas de cellule royale à l'horizon, donc c'est pas une ruche qui a la prétention d'essaimer. Essaimer, c'est dire que la ruche est trop complète, quand il y a trop d'habitants, et bien d'elle-même, elle décide de se partager en deux, d'où l'essaimage. On va aller voir les autres ruches.
Alors, moi, je suis Elisa Blanchard, j'ai 26 ans et j'habite à Fabas, en Ariège. Je suis dans les abeilles depuis 3-4 ans. Je suis un peu tombée là-dedans par hasard en rencontrant une apicultrice qui est devenue mon amie.
Et aujourd'hui, vous avez combien de ruches ?
Aujourd'hui, j'ai 130 ruches à peu près.
Qui vous permettent de produire du miel pour votre consommation perso et pour en vendre aussi ?
Et pour en vivre, donc c'est mon métier. Je vends mon miel surtout dans des réseaux, dans des circuits courts comme les AMAP. Et pour l'instant, j'en ai pas assez pour dégager un salaire suffisant, mais je suis en cours d'installation.
Voilà. Vous avez commencé quand, exactement ?
Il y a 3 ans.
Il y a 3 ans. Et vous avez connu cette destruction massive d'abeilles ? Vous avez eu des morts d'abeilles ?
Oui, mais en fait, comme j'ai pas connu le moment où ça allait bien, j'ai pas vu la descente.
Vous êtes arrivé quand tout allait mal.
C'est ça. Et là, 2 années où ça a été catastrophique. Et là, les anciens, ils nous disent, si vous avez survécu là, c'est bon.
Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent justement les anciens de cette hécatombe ?
Que c'est pas du tout la même apiculture qu'avant. Avant le varroa, avant les pesticides, c'était dans les années 80. C'était, la ruche faisait des centaines de kilos de miel. Et enfin, peut-être pas des centaines, mais 150 kilos de miel, je pense. Et aujourd'hui, ici, dans nos régions, quand on fait 20 kilos à la ruche, on est content.
Ça vous décourage pas ?
Bah, comme je vous dis, de pas avoir connu l'avance, et non, ça va. Puis je pense qu'il faut quand même s'y mettre, parce que bah, sinon, il faut essayer, sinon ouais, on va arriver à rien.
Fabas, c'est un petit village authentique du sud-ouest au pied des Pyrénées. Isabelle Blanchard, jeune apicultrice, nous reçoit sur la terrasse de sa maison. Ses amis Christophe et Julie, apiculteurs eux aussi, nous ont également donné rendez-vous ici. Sur la table, du miel de tilleul, de châtaignier, de bruyère et d'autres fleurs d'été, une production maison. Les ruches ne sont pas loin, alignées au fond du jardin. L'an dernier, Elisa a perdu 60% de son cheptel. Alors elle a enquêté sur les causes de cette mortalité. Le responsable, selon elle, un antiparasitaire utilisé pour les mammifères, l'ivermectine.
Et on s'est rendu compte que c'est la proximité avec les animaux d'élevage. Ce seraient les produits pour traiter les parasites, notamment l'ivermectine.
Voilà. Comment cet insecticide sur un mouton, par exemple, arrive à tuer les abeilles ?
La supposition, c'est l'eau. Le vecteur serait l'eau. En fait, on a remarqué que les années vraiment de sécheresse, et les abeilles ont besoin d'eau l'été pour nourrir le couvain, pour vivre. Et quand en montagne, il n'y a pas de mielée, mielée c'est quand la fleur donne du nectar. Donc elles ne trouvent pas l'eau dans le nectar, et du coup elles se rabattent là où elles peuvent. Et quand on se retrouve à côté des animaux d'élevage, donc il y a toujours des abreuvoirs qui débordent, et les abeilles, elles adorent boire l'eau croupie. Faudrait pas le dire, mais voilà, c'est plein de minéraux, plein de vitamines, et elles sont vraiment attirées là où les animaux défèquent et ça patauge. Voilà, donc elles viennent boire cette eau-là, et donc les molécules passeraient à ce moment-là. Et le problème, c'est que c'est des molécules en plus qui sont difficiles à retrouver parce qu'elles sont deux fois métabolisées. Elles sont métabolisées d'abord par l'animal d'élevage, qui va les rejeter dans ses excréments, et après métabolisées par les abeilles. Donc on se retrouve avec des molécules qui sont modifiées, et on a beaucoup de mal à les retrouver dans les analyses, à savoir qu'est-ce qu'on cherche. C'est vraiment là où c'est difficile, parce qu'on n'arrive pas à prouver d'où vient le problème. Alors que quand on compare les itinéraires de chaque apiculteur, on se rend bien compte qu'il y a quand même la proximité à chaque fois avec de l'élevage.
La solution, c'est d'éloigner les abeilles des animaux, quoi. C'est quoi la solution ?
Bah, comment faire ? Non, on peut pas dire aux éleveurs...
Jouer plus loin ?
Ouais, parce qu'en fait... C'est pas nos ennemis, il faut arrêter de dire ça, parce que la Chambre d'agriculture a dit ça, et ils ont vraiment fait en sorte qu'on soit les uns contre les autres. Non, je pense que c'est d'abord sensibiliser les gens sur ces produits-là, sur ces molécules qui sont de plus en plus dangereuses, et il en faut de moins en moins pour que ça ait de plus en plus d'effet. Et c'est les labos, c'est les vétos qui conseillent, et les agriculteurs, ils sont aussi dans une roue infernale, et il faut qu'il y ait du dialogue et qu'on arrive à travailler ensemble, mais on ne pourra jamais séparer les ruches des élevages. Ou alors on fait des parcs où on empêche les agriculteurs, mais ce n'est pas possible.
Non, mais ils ne sont pas contre vous, les agriculteurs. Oui. Ils n'ont rien contre les apiculteurs et les apiculteurs n'ont rien contre les agriculteurs.
Et on veut partager un même territoire. Et depuis la nuit des temps, les vaches mangent les fleurs qui ont été butinées par les abeilles et c'est comme ça que ça tourne. Ouais. On ne peut pas faire autrement.
Vous avez combien de ruches, vous ?
Moi, cet hiver, j'hiverne 210 ruches.
Il en faut combien pour être exploitant agricole ?
Pour être exploitant agricole, comme la loi le veut, c'est 200 ruches, en fait, pour être installé à titre principal. On peut vivre avec moins, il y en a qui vivent avec plus, après voilà, tout dépend
de la
manière.
Vous en vivez,
vous ? Moi, cette année, je commence à en vivre, ouais. Ça fait 4 ans que je suis installé, et avec les 3 années qu'on a subies, ça a été dur de se verser un quelconque salaire, tout est parti en réinvestissement et compagnie. Donc ouais, cette année, vu qu'il y a eu une saison quand même mellifère assez intéressante, on va pouvoir en vivre.
Et vous, vous aviez identifié la cause de la mortalité de vos abeilles ?
Directement, non. Quand ça nous est arrivé, la première chose qu'on fait, c'est se remettre en question. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait, ou c'est que j'ai raté un truc et compagnie. Donc on ressasse ça, on ressasse ça. Et puis au mois de décembre, on s'est tous retrouvés. Au mois de janvier aussi, on a fait d'autres réunions. Et quand on a comparé les signes cliniques qu'on avait...
Qui était quoi, nos...
ben, disons qu'en l'espace de 2 semaines, on avait 20 000 abeilles qui étaient mortes au fond de la ruche. 20-30 000 abeilles, des tapis de 4 cm d'abeilles mortes au fond des ruches. En général, on retrouve des ruches vides. C'est un phénomène qui s'appelle le syndrome d'effondrement des colonies, qui a été décrit aux États-Unis il y a 15 ans ou 20 ans. Et et qu'on retrouve un petit peu partout dans l'hémisphère nord.
Et qui se traduit par quoi ? Par des abeilles qui ne reviennent pas
Qui se traduit par des ruches qui se dépeuplent l'hiver et qu'on retrouve désertées quand on refait les visites.
On ne retrouve pas les abeilles, en fait.
Il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus personne dedans.
D'accord.
Il y a du couvain abandonné, il y a des provisions, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a plus d'abeilles.
Et on imagine qu'elles vont mourir ailleurs, qu'elles sont désorientées.
On ne sait pas ce qui se passe.
On ne sait pas ce qui se passe. Alors que là, ce n'était pas ça, c'était des tapis d'abeilles.
Nous, sur tout le massif des Pyrénées, ce qui a été relevé, c'est des tapis d'abeilles au fond des ruches. Une
là,
mortalité
vous dites,
aiguë, massive.
Et là, vous vous dites intoxication ?
Ben, pour
empoisonnement
nous...
Parce qu'il y a d'autres causes de mortalité des abeilles, mais vous vous dites bien que vous avez identifié certainement la cause numéro une, la principale, c'est les insecticides.
C'est la chimie présente dans l'environnement.
C'est pas le varroa, c'est pas le froid asiatique.
Le varroa, il affaiblit le système immunitaire, il est transmetteur de virus, il y a plein de choses, effectivement. Mais il y a quand même beaucoup de scientifiques qui sont assez unanimes là-dessus en disant que la cause principale, ça reste la chimie. La chimie affaiblit les organismes et compagnie. Et il suffit derrière qu'il y ait une présence de virus ou quoi pour que ça prenne une ampleur qui serait peut-être pas la même si l'organisme n'avait pas déjà été fragilisé.
Et on peut pas imaginer de créer une abeille plus résistante ?
Pour continuer à vivre dans un environnement pollué ?
Ça serait baisser les bras, quoi. Faire ça, ce serait...
Ce serait baisser les bras, et puis ça serait... entre guillemets...
Mais les insecticides, il y en aura toujours. Est-ce qu'on utilise trop ? Est-ce que c'est pas à bon escient ?
Il y en aura toujours, oui. Mais quand quelque chose est utilisé de manière curative, c'est une chose. Quand c'est utilisé de manière préventive, c'est une autre. C'est ça, le problème.
C'est pas une question de quantité.
Il y a un parasite, il y a une maladie quelque part, il y a un champignon qui se développe. OK, on utilise. Aujourd'hui, on est sur des insecticides systémiques qui se développent dans les organismes des plantes ou des organismes vivants comme les animaux ou quoi, et qui sont actifs pendant plusieurs mois souvent, qui sont rémanents dans le sol pendant plusieurs années, et qui sont là au cas où.
Alors il n'empêche qu'il y a quand même des apiculteurs qui sont drôlement courageux, comme Julie, qui est votre compagne, hein, Christophe. Alors Julie, elle est en cours d'installation. C'est courageux.
Je ne sais pas si c'est courageux. Mais oui, je suis en cours d'installation.
Mais par amour de Christophe ou par amour des abeilles ou...
Oh, d'abord par amour des abeilles. C'est Christophe qui m'a fait rencontrer les abeilles,
oui.
Ça c'est sûr. Mais non, c'est par amour de ce métier.
Ouais, vous êtes tombée dans le pot de miel, quoi.
Complètement.
Ouais.
Complètement.
Et ça vous fait pas peur, ça vous décourage pas, toutes ces histoires de pollution, de maladies, de cheptels décimés?
Alors, c'est stressant, ça pose beaucoup de questions sur la viabilité de nos exploitations. Après, j'ai quand même pu rencontrer des apiculteurs qui arrivent à s'en sortir.
Des apiculteurs heureux ?
Heureux, voilà, qui souffrent, mais qui s'en sortent. Et puis, je pense aussi qu'on démarre l'apiculture dans ce contexte-là, et du coup, on réfléchit avec ce contexte. Donc, d'une part, on essaie d'avoir une activité militante, parce qu'on pense qu'il faut vraiment changer les choses si on veut que l'abeille survive. Mais d'autre part, on réfléchit aussi à adapter notre activité à ce contexte-là, et à réfléchir à monter une activité viable dans ce contexte de grosse mortalité. Et du coup, moi, je prépare mon installation avec une grosse activité d'élevage pour qu'on soit capable, chaque année, de renouveler une grosse partie de notre cheptel en prévision des mortalités à venir. Alors, c'est un peu triste, mais c'est en même temps, on l'espère, ce qui va nous permettre de monter une exploitation viable.
Ça paraît inévitable.
Aujourd'hui, c'est inévitable. J'espère que... Alors, peut-être que c'est très utopique, mais j'aimerais que dans 10, 15 ans, 20 ans, on n'ait plus besoin d'avoir cette activité d'élevage intensive. Si on arrive à être bon aussi sur le militantisme.
Oui. Et un élevage intensif, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire combien d'abeilles ? Enfin, comment vous faites et ça représente quoi ?
Mais ça veut dire, on part sur l'idée qu'on va perdre au minimum 30% de nos ruches tous les hivers, voire plus. Et du coup, il faut qu'on en ait 30% de plus à l'hivernage que ce qu'on veut retrouver l'année d'après pour démarrer la saison. Et donc, ça veut dire toute l'année avoir une activité de multiplication des essaims pour hiverner plus de ruches, en fait. Donc, on va monter un atelier d'élevage de rennes pour avoir des rennes à disposition. Et puis, on va multiplier les essaims toute l'année en parallèle de l'activité de miel. Ce ne sera vraiment pas pour vendre des essaims ou des rennes, ce sera pour nous sécuriser notre exploitation.
Assurer l'avenir.
Ouais. Et ça, je pense, c'est vraiment les 3 années qu'on vient de passer qui nous ont fait vraiment réfléchir à notre modèle d'exploitation. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on soit capable de gérer cette partie-là d'élevage.
...2014 reste une année terrible pour les apiculteurs, particulièrement en Ariège où la mortalité des abeilles a été la plus importante. Alors en mars l'année dernière, une opération de solidarité s'est mise en place, organisée par la Fédération des apiculteurs professionnels et la Confédération paysanne. Des essaims de toute la France sont transportés en Ariège, une opération très délicate.
Aïe ! Dans les cheveux, j'ai été piqué.
Ouais, si c'était pour mieux s'en aller.
Ouais.
Vous reculez tranquillement, vous enlevez le gars, par là, vous reculez doucement.
Alors au mois de mars, vous voyez arriver des essaims, de la Drôme principalement.
Alors là, d'un peu partout en fait, de 4-5 points en France. En pleine nuit, ils ont traversé la France avec 2 gros convois, un à l'est et un à l'ouest, qui ramassaient les essaims à chaque point de rendez-vous. Ils roulaient toute la nuit en sachant que derrière on a des abeilles, c'est comme si on déplaçait de la dynamite, hein. Faut faire quand même hyper attention. Et ils sont arrivés au petit matin, enfin non, pendant toute la nuit ils sont arrivés au compte-gouttes et on les a réceptionnés. Et c'était complètement fou parce que il faisait nuit, on allait les chercher, on se rencontrait, il y avait des abeilles partout, mais enfin c'était...
Je pense qu'il fallait y aller doucement en plus,
ouais,
c'était,
mais c'était hyper magique.
On déplace pas des essaims comme ça.
Bon, après on est tous apiculteurs, alors on savait comment faire. À aucun moment j'ai eu des peurs pour la sécurité, on était tellement d'apiculteurs que ça pouvait que bien se passer. On les a emmenés sur le terrain où on avait prévu de poser les abeilles, et en fait là... On s'était dit qu'il fallait les transvaser dans des 4x4 pour arriver au point qu'on voulait parce que c'était...
En pleine nature.
Voilà, et... il fallait quand même y arriver sans s'embourber.
Ouais, c'était pas excessif.
Et puis finalement, quand on est arrivé, il y avait tellement de monde dans ce champ qu'on s'est dit, mais on va pas transvaser quoi que ce soit. Et en fait, on a fait une chaîne humaine et on s'est passé les essaims de main en main. Les 176 essaims sont arrivés sur place en passant dans les bras de 70 apiculteurs et autres personnes qui étaient là. Et ça, c'était vraiment fou. Surtout que c'était pas prévu. Ça montrait la solidarité jusqu'au bout, humaine. Ça,
c'est des jeunes fort. Apiculteurs, des vieux apiculteurs,
de tout. De tout. Conventionnel, bio, vieux, jeunes, nouveaux installés, vieux... Enfin, ouais, tous les profils.
Et alors, vous en avez récupéré combien, vous, alors, des abeilles comme ça?
Moi, j'ai récupéré 10 ruches. Chaque bénéficiaire a récupéré 10 ruches.
10 ruches. Et ça coûte combien, 10 ruches? Vous avez... C'est un don de combien qu'on vous a fait, vous savez ça?
Alors, un essaim hiverné, donc qui a passé l'hiver sans problème, sur le marché, c'est 140 euros.
Ah, c'est un beau cadeau que vous avez eu quand même.
Ouais. Même s'il y en a qui ont perdu 90% de leur ruche, ou même 100% des fois, et c'est pas ce qui nous fait sortir la tête de l'eau, mais c'est le symbole déjà qui nous fait du bien. Et puis après, il y a tout un projet de pépinière qui arrive ensuite. Le but du jeu serait, donc moi j'ai reçu 10 d'essaims, je m'en sers pour faire du miel et je vais aussi les multiplier. Faire de 10 essaims, je peux en avoir 20, 30, 40. De façon à ce que cette pépinière grossisse et que les années où il y a aussi des problèmes chez d'autres apiculteurs, ben on refait ce don en fait. Mmh. Mais ce serait plus local. Là, on ne traverserait pas la France.
Les laboratoires n'entendent pas l'inquiétude des apiculteurs. Ils expliquent que c'est une question de dosage, de bonne utilisation, de responsabilité. Un discours qui fait bondir Philippe Castin. Aujourd'hui, Philippe Castin est maraîcher bio dans le Gers. Hier, il vendait des produits phytosanitaires.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien et vous?
Ben, ça va, vous avez trouvé facilement?
Écoutez, oui, c'est un peu perdu, mais j'ai trouvé facilement.
Et on est qu'à 50 km de Toulouse quand même. Hein.
C'est vrai, et pourtant on a l'impression d'être un peu au bout du monde. Mais...
C'est un peu vrai aussi quand même. Bon.
C'est votre maison ici?
Oui, voilà.
Et là, il y a des serres, il y en a encore là-bas?
J'ai 7000 mètres de serres.
7000 mètres?
Ouais.
Ah oui. Et vous cultivez de tout?
De tout. De l'aubergine jusqu'à la tomate, par ordre alphabétique.
Et combien de temps vous faites ça?
Ouf, moi j'ai monté les serres depuis en 1990. Après moi j'ai été technicien dans une coopérative de 81 à 92 ou 13 ans.
À l'époque où vous vendiez des produits phytosanitaires?
Je vendais des produits phytosanitaires.
Racontez-moi cette période.
Ben, j'avais été embauché, moi au départ j'étais magasinier, puis j'ai terminé technicien. Et j'ai vendu tous les produits phytosanitaires, spécialisés maraîchage. Et bon, c'est pas la période où je suis le plus fier du monde, quoi. Ouais. Je suis pas le plus fier, non, en tout cas, moi.
Quel type d'insecticide,
vous dites ? Ben, insecticide, ça commençait par les produits les plus classiques, c'est-à-dire les paratiums, marathions. Et après, ça a dérivé sur tout ce qui était pyréthrénoïde, c'est-à-dire les D6, les karatés, j'ai plus tous les noms en tête maintenant.
Parce que mais Cruzaire, tout ça, vous vendiez aussi tous les...
Non, alors, voilà. Le Cruzaire, je me l'avais proposé pour faire l'enrobage des semences de poire. Oh, purée, merde. Excusez-moi. Bon, je vais l'éteindre, c'est plus simple. Hein.
Alors, à l'époque où vous vendiez tous ces produits phytosanitaires, vous aviez l'impression de vendre des cochonneries? Vous avez eu quoi, une prise de conscience?
Non, la prise de conscience, c'est quand j'ai discuté avec un représentant d'une société qui arrivait à refourguer en France du zikombé, quoi. Sous forme de cristaux que l'on met dans les serres, il faut fermer les serres, après ça dégage un gaz et ça désinfecte la totalité des serres. Voilà, là, il ne faut pas y rentrer, pardi. Voilà, et là, à partir de là, bon, moi, ça a cogité dans ma tête et bon, je me suis dit, c'est pas possible d'arriver à vendre du zikombé, quoi, avec tout l'historique qu'a ce produit, quoi.
Donc aujourd'hui, vous n'utilisez plus du tout de produits phytosanitaires ou...
Ah, plus rien du tout.
Plus rien du tout.
Ah non, absolument rien. J'utilise de temps en temps comme produit de traitement le soufre. J'utilise pour le doryphore, par exemple, un dérivé de la bactospéine. C'est une bactérie qui est très largement utilisée en bio et qui tue tout ce qui est chenille. Voilà.
Je voudrais qu'on revienne aux apiculteurs, parce que c'est un peu mon sujet, les abeilles.
Oui.
Il y en a beaucoup dans la région, il y en a quelques-uns.
Ah ben moi j'ai 60 ruches au fond.
Ah, vous avez des ruches aussi?
Oui. Enfin, moi j'en ai pas, elles sont pas à moi, elles sont à un producteur de... C'est le porte-parole de la CONF, apiculteur, au moins du Gers. Et il amèche tous les bio, quoi. Hein. Enfin, en général, les bio, là, on est très recherchés pour les abeilles, hein, pour les ruches. Hein.
Alors du coup, ces abeilles-là, elles vont bien?
Elles vont très bien, ouais.
Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de...
Ah, c'est pour ça qu'ils les mettent chez les bio.
Et elles sont loin d'ici?
Oh non, elles sont à 500 mètres.
Hein. On y va?
Ah ben si vous voulez, ouais. Celle-là, non, elle ne bouge pas.
Elles sont dans le bosquet, les ruches
Le bosquet. Ouais, elles sont dans l'ombre et tout, là. Elles sont pas plus folles, ici.
Et l'apiculteur, il vient tous les combien, lui, les voir?
Oh, je le vois à peu près toutes les 3 semaines.
Oui. Alors ici, on a 60 ruches.
Mais il y en avait 60, mais là, ça a baissé, ça va vachement baisser.
Il y en a moins. Posées sur des palettes. Elles se nourrissent avec quoi, ici, alors? Qu'est-ce qu'on trouve, ici?
Ah ben écoutez, là, il y a 7 hectares à côté, là, qui est en jachère depuis une dizaine d'années, donc on trouve toute la flore qui doit se produire à peu près pendant 6 à 7 mois, 8 mois peut-être. Hein.
Et vos serres, ça les attire aussi, non?
Non, elles détestent les serres.
Ah ouais.
Nous, dans les serres, on lâche, j'achète un bourdon, le Bombus terrestris, qui est beaucoup plus vaillant, entre autres, que l'abeille. Hein. Parce que les serres sont en général, il fait très chaud, il peut faire très chaud, et c'est surtout très humide. Et l'abeille ne le supporte pas, ça. C'est assez fragile, l'abeille, ça c'est vrai. Hein.
Donc ici, elles sont heureuses, elles ont à manger, ouais. elles ont de l'eau ouais. propre ici. Vous avez un point d'eau ici?
Ben, il y a le ruisseau, là.
Le ruisseau qui passe juste là.
Après, il y en a marre un peu plus loin, bon, ben, ils y vont aussi, là.
Donc ici, pas de frelons asiatiques?
Non. Enfin, si, j'en avais vu un nid il y a 2 ans, bon, je l'ai détruit, hein. Et bon, j'avais averti l'apiculteur qui n'avait pas l'air de s'en faire plus que ça. Mais par contre, de là à les voir voler ici, moi j'en vois pas. Même quand on a ramassé les figues, j'en ai pas vu. J'y faisais très attention parce que quand vous ramassez des figues en plein après-midi, là, il y a de tout dessus. Il y a les guêpes, il y a les frelons, mais il y avait les frelons le normal, quoi. Mais l'asiatique, j'en ai pas vu.
Donc là, on est dans le Gers, donc le bonheur est dans le pré. On peut dire ça.
On peut dire ça, oui, pourquoi pas. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est la chance que nous avons ici.
Elles sont heureuses.
Ouais, elles sont vraiment heureuses, quoi. Hein. Il n'y a rien pour les emmerder.
Les insecticides ne sont pas les seuls responsables de cette hécatombe. La deuxième cause de mortalité des abeilles en Europe, c'est le varroa, un acarien parasite destructeur. Des étudiants toulousains de l'INSA et de l'université Paul Sabatier cherchent à le combattre, mais sans le tuer. Il planche sur la création d'une bactérie capable d'attirer le varroa dans un piège fixé à l'entrée de la ruche. Benoît Ponce se passionne pour ce projet.
Ça ressemble à quoi, un varroa ?
À l'œil nu, ça ressemble pas à grand-chose. C'est un point d'un millimètre à peu près. Par contre, si on regarde à la loupe binoculaire, ça ressemble à un petit acarien, puisque c'est un acarien avec un gros ventre et huit pattes.
Huit pattes qui s'accrochent comme ça, qui s'agrippent sur l'abeille, je suppose.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un ectoparasite. Donc, c'est un petit peu comme les tiques pour les humains ou les animaux. Il se fixe sur l'abeille et il se nourrit de l'hémolymphe des abeilles. C'est ce qui correspond à leur sang, à peu près.
Donc, c'est comme ça qu'il la tue ?
Alors,
ou est-ce qu'il l'empoisonne ou est-ce que... C'est quoi le processus ?
Il y a plusieurs facteurs en fait, qui mènent à la mort des abeilles. Déjà, le fait que le varroa pompe leur hémolymphe, ça affaiblit les abeilles. S'il y en a un, elles sont considérablement affaiblies. Mais s'il commence à y avoir plusieurs varrois par abeille, elles sont quasiment assurées de mourir à cause de la faiblesse. Et d'autre part, c'est un vecteur pour différents virus, notamment le virus des ailes déformées, qui est un virus assez meurtrier chez les abeilles.
C'est-à-dire qu'il les rend un peu handicapés, ces abeilles. S'il les tue pas, en tout cas, celles qui vont naître après, elles vont naître avec une aile en moins, une patte en moins, c'est ça ?
C'est avec les ailes atrophiées, globalement.
D'accord. L'objectif, c'est pas de tuer le varroa, c'est de faire en sorte qu'il embête plus l'abeille. Est-ce que je simplifie trop ?
Non, c'est à peu près ça. Hein. Il s'agit là, dans le cadre de notre projet, de les empêcher d'entrer dans la ruche.
Ah. Et alors là, on fait comment ?
Alors, c'est là qu'intervient notre piège, qui se place donc à l'entrée de la ruche. À l'intérieur, la bactérie que nous avons voulu fabriquer cet été, que l'on a nommée Apicoli. Donc, cette bactérie est capable, d'une part, de produire une molécule attractante pour le varroa, et d'autre part, de produire une molécule qui va tuer le varroa.
Elle l'attire et après, elle le tue.
Voilà. Alors, ça se fait en deux phases, puisqu'il y a également un système de régulation pour attirer le varroa le jour et le tuer la nuit.
Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un jour on se débarrassera de ce varroa ou est-ce que c'est de la science-fiction ?
Dans tous les cas, on ne devrait pas s'en débarrasser, mais une des prévisions les plus optimistes, c'est que d'ici quelques années, peut-être 40 ou 50 ans, les abeilles européennes seront complètement adaptées au varroa et auront développé des comportements similaires à ceux des abeilles asiatiques, c'est-à-dire se débarrasser elles-mêmes du parasite et donc il n'y aura plus de problème de mortalité à cause du parasite.
Bon, mais on va aller à l'autre rucher. Donc. Mais avant, on va mettre un petit peu de carburant dans l'encensoir. On remet. On va rajouter un peu d'herbe. Pourquoi on rajoute de l'herbe, bébé ? On appelle ça la fumée blanche, en fait. L'herbe sert à refroidir la fumée, ce qui ne brûle pas les ailes des abeilles, en fait, parce qu'on s'approche des fois un peu trop près. Voilà, donc voilà le rucher. On enfume autour de la ruche, l'entrée, tout autour. Et même opération que tout à l'heure. On enlève le toit. On enfume sous le cadre. On fait bien valoir notre présence. Les abeilles comme ça sont moins nerveuses. On enlève. Voilà. Donc on découvre une ruche qui n'a pas souffert trop de l'hiver. Voir cette année, il n'y en a pas trop eu. Voilà. On enfume un peu. Toujours. Voilà. Donc là, on va procéder. Comme je vois qu'il y a des cadres qui sont relativement vides, à droite et à gauche. Il y a du couvain, il y a du miel, il y a des abeilles avec des cellules de faux bourdon. Donc voilà, c'est une ruche. Donc ce qu'on va faire, on va procéder à mettre une hausse pour récolter le miel de printemps. À l'heure actuelle, c'est le colza. Donc on va déposer une grille, ce qu'on appelle une grille anti-reine, sur le corps de ruche principal. Voilà, c'est fait. On enfume encore un peu. Et on va attraper la hausse. Que l'on va venir déposer sur le corps de ruche. Alors pourquoi on met une grille anti-reine ? Eh bien, c'est tout simplement pour empêcher la reine, de venir pondre dans la hausse. Sinon, voilà, il y aurait du couvain. Alors là, dans la hausse, ce qu'on veut, nous, c'est que du miel. Le miel qui est fait pour l'apiculteur. Le miel qu'il y a dans la corde de ruche, c'est pour les abeilles. Voilà, c'est fait. On enfume un peu. Parce que on ferme, on va fermer. Donc on rajoute par-dessus, on va rajouter un nourrisseur, quand même. En cas. Donc on rajoute un nourrisseur par-dessus. On va mettre 500 grammes, voire 1 kg de nourriture. C'était de nourriture, c'est du candice, tout simplement du sucre. Alors on peut le mettre aussi liquide. 50% d'eau, 50% de sucre. Voilà, qu'on mélange. Voilà, le nourrisseur est en place. On remet le couvre-nourrisseur. Et pour finir, le toit. Pour protéger nos chers amis. Et on leur dit au revoir, on a un petit coup de fumée. Et voilà qui est fait.
L'abeille a encore un autre ennemi, le frelon asiatique. Il a été signalé pour la première fois dans le Lot-et-Garonne il y a une douzaine d'années. Depuis, il s'est largement répandu dans le sud-ouest. On raconte qu'il a débarqué ici dans des poteries chinoises. Lucie Autier étudie le comportement du frelon asiatique au Centre de recherche sur la cognition animale du CNRS de Toulouse, près du rucher du Centre national de la recherche scientifique, une fontaine, des fleurs, des abeilles et des frelons.
Vous jouez au tennis aussi ou cette raquette elle est prévue pour quelque chose?
Je vais vous montrer à quoi elle sert. Elle sert à toucher les frelons asiatiques qui stationnent devant les ruches en continu. Et du coup, ça les fait tomber au sol.
Et là, on prend des risques de se faire piquer ou pas du tout?
Aujourd'hui, non, il y a une activité qui est très réduite. Et le seul endroit où il ne faut pas stationner, quand il y a une activité devant les ruches, c'est devant. Mais aujourd'hui, ça craint pas, il n'y a pas d'activité, vous voyez.
Et ça, ce sont quoi, des frelons asiatiques?
Là, ce sont les frelons, ouais, asiatiques. Où on devrait en fait les appeler frelons à pattes jaunes. Vous voyez, on voit bien qu'ils
sont jaunes.
Les pattes, là, elles sont toutes jaunes. Parce qu'en fait, tous les frelons, ils viennent d'Asie. Donc, c'est frelons à pattes jaunes. Et là, ils se mettent carrément sur l'entrée de ruche, ouais.
Et qu'est-ce qu'ils font, là? Quand ils se mettent devant l'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on...
Ils cherchent à rentrer.
Ils cherchent à rentrer, ouais.
Mais il y a un réducteur, du coup, ils peuvent pas passer. Le réducteur, il est à la taille du thorax des abeilles. Et lui, son thorax, c'est le plus gros. Et donc, du coup, il ne peut pas rentrer. Et ce qu'il veut, c'est attraper des abeilles pour pouvoir les manger et apporter des protéines à son nid.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a des nids de frelons ici, pas très loin?
Oui, cachés dans les feuilles.
Donc, vous protégez déjà contre le frelon asiatique. Ça, vous avez trouvé la méthode?
Non.
Non.
On empêche que le frelon rentre dans la ruche. Mais ce qui se passe, c'est que le frelon... Il est là, il tient un siège. Il est devant la ruche et du coup, il bloque l'activité des butineuses. Les butineuses, elles arrêtent d'aller et venir. Ou elles n'arrêtent pas, mais elles ralentissent vraiment leur activité.
C'est-à-dire que lui, il ne peut pas rentrer, mais elles ne peuvent pas sortir?
Non, juste parce qu'il est là.
Ah, alors la solution, c'est quoi?
Trouver les nids. Il n'y en a pas vraiment de solution. Et donc, il faut juste vérifier. Moi, mon travail, c'est de vérifier que les provisions ne s'amenuisent pas trop pour qu'elles puissent quand même passer l'hiver correctement.
C'est le miel de printemps celui-là.
C'est bon ?
Alors,
ça va aller. Il y a le miel. Il y a quoi qu'on sorte ?
Alors là, c'est le miel de printemps toute fleur. Et là, le miel d'été toute fleur. Vous avez goûté au miel d'été ? Il y a plus de fleurs sauvages là.
Tous les ans, à Blagnac, près de Toulouse, se tient la fête du miel. Une journée de découverte des apiculteurs, des ruches et des abeilles. Protection de la nature et développement durable sont aussi au programme. Une exposition pédagogique ponctuée de dégustations de miel. C'est là que nous rencontrons Olivier Fernandez, le président des apiculteurs de Midi-Pyrénées.
La ville de Blagnac a décidé depuis 2006 d'intégrer les ruches dans son agenda 21. Et l'abeille a été l'emblème, comme dans beaucoup d'autres villes, et bien d'un verdissement de la politique qui a été mise en place ici à Blagnac. Et donc c'est la première action qui a été menée en 2006. Et on peut se réjouir que la ville continue avec cette politique de l'abeille et a organisé chaque année une fête pour les enfants et aussi pour le public autour de l'abeille, ce qui nous permet de sensibiliser le jeune public et les adultes qui le souhaitent.
Parce que si on veut informer, c'est peut-être aussi parce que finalement, tout ne va pas si bien au royaume des abeilles. Donc il y a peut-être des choses à dénoncer ou en tout cas à dire et à informer ce public parce que vous avez, on peut le dire, des gros problèmes. Les apiculteurs ont de gros problèmes aujourd'hui.
Alors effectivement, depuis les années 1990, il a mis sur le marché de nouveaux pesticides, une nouvelle famille qu'on appelle les néonicotinoïdes. On est passé d'un taux de mortalité de 3 à 5% annuellement à 35% au niveau national.
C'est énorme.
Et ce taux, si énorme qu'il paraît au niveau national, c'est un taux national et donc il y a des moyennes plus fortes localement. Et ici, on n'est pas trop chanceux puisqu'on est en tête à entre 40 et 60% de mortalité chaque année.
En Midi-Pyrénées.
En Midi-Pyrénées, dans nos ruches.
Depuis combien de temps ?
Depuis, les premières mortalités massives sont arrivées en 1994 en Vendée. Et ici, on est pareil, 1995-1996.
Et là, on se dit, effectivement, il y a un souci. Et on se tourne forcément vers les agriculteurs, forcément vers les pesticides. Forcément...
Alors, on se tourne vers l'administration pour
d'abord,
savoir un
ouais.
peu qu'est-ce qu'il en est. Faire des études d'impact. Donc voilà, les études ont été menées à grands frais pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est quand même avéré. On sait que le premier facteur de mortalité des abeilles, c'est bien l'arrivée de ce nouveau pesticide sur le marché. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment, nous, avec la Fondation Nicolas Hulot, pour faire interdire ces insecticides néonicotinoïdes sur tout le territoire français.
Qui arrose quel type de champs, de cultures ? Tout type ou...
Alors, il y a eu des restrictions au niveau de l'usage des néonicotinoïdes. Au départ, les premiers usages étaient sur notamment le tournesol et le colza. Donc, ce sont deux plantes qui font énormément de miel, important pour les apiculteurs, surtout pour les apiculteurs professionnels. Et ici, dans la région, c'est le tournesol qui a permis de sonner l'alarme, puisqu'il y a eu des mortalités massives au début des années 2000 sur les tournesols. Et à partir de là, il y a même eu... deux dossiers d'instruction qui ont été menés à Saint-Gaudens, pas très loin d'ici, pour enquêter sur ces mortalités. Il y a eu des intoxications pulmonaires des apiculteurs qui étaient dans leurs ruches, parce que lorsque les agriculteurs faisaient les semis de ces semences, qui ne sont plus traitées une fois qu'elles poussent, mais avant de germer, c'est-à-dire que la graine est enrobée avec ces molécules chimiques, donc avec ces néonicotinoïdes, la graine va germer et les racines vont puiser tout autour de cette graine, la molécule, qui va être présente dans toute la sève, durant toute la vie de la plante, et de la racine jusqu'au bout de la fleur. Et c'est là où l'abeille va rentrer en contact. Mais avant ce premier contact pour l'abeille, il y a un contact pour l'homme, et on l'a mesuré ici en Midi-Pyrénées, au niveau des particules qui sont émises lors des semis. Puisque lorsque les tracteurs vont semer ces graines, eh bien les graines s'entrechoquent, et on a un nuage de poussière au-dessus des champs qui peut faire plusieurs kilomètres et qui est contaminé avec ces molécules.
Alors là, votre système de défense ou d'attaque, c'est quoi ? C'est de faire un procès ? C'est de dénoncer ? Qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ce constat ?
Alors, le point central sur lequel on essaye d'insister, c'est au niveau des autorisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études qui sont menées sur les nouvelles molécules avant d'être autorisées sont des études qui prennent un cadre scientifique totalement obsolète. On va utiliser par exemple un indicateur qu'on appelle la DL50. C'est-à-dire la dose létale 50. On va mettre des pesticides sur des plantes ou on va donner des solutions sucrées contaminées à des abeilles et les abeilles vont butiner. On va regarder ce qui va se passer à quelques jours d'intervalle. Si plus de 50% des abeilles meurent, le pesticide est interdit. Si 49% ne meurent pas, le pesticide est autorisé. C'est un outil totalement obsolète au vu de la dangerosité des molécules qui n'ont cessé d'augmenter. Pour vous donner un exemple, tout le monde connaît le DDT. L'agent orange, utilisé en Asie par l'armée américaine et contre lequel on s'est battu, qui aujourd'hui est interdit, on sait qu'il est cancérigène. Avec un néonicotinoïde actuel, prenons le gaucho, qui est très médiatique. Le gaucho est 5800 fois plus puissant que le DDT. Un gramme de gaucho, c'est comme si on avait 5,8 kg de DDT. Donc là, il y a un petit problème. Si on interdit le DDT, qu'on autorise des produits 5800 fois plus puissants, qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a des enjeux politiques, des enjeux financiers contre lesquels on se bat. Et aujourd'hui, on travaille au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour qu'un amendement soit voté pour interdire définitivement les insecticides néonicotinoïdes.
Merci Olivier Fernandez.
Les abeilles, en batterie, donc ils ne sont pas moins stimulées par la chaleur des rayons de ce soleil d'hiver, s'activent. Se dégrimpent et effectuent leur première sortie pour un vol de propreté. Le berger des abeilles se contente à ce moment-là d'observer l'activité de tout le monde.
Moi, je trouve que c'est une activité au quotidien qui est tellement positive, dans le sens où les ruches ont un dynamisme pendant toute la saison qui est assez fascinant, dans la mesure où on rencontre beaucoup de gens intéressants et solidaires. Et du coup, ça nous rend positifs aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Enfin, si, il y a plein de raisons de ne pas l'être, mais on va tâcher de ne pas l'être.
On va positiver, on dit que c'est encore possible, c'est encore possible. Ouais.
On verra, des fois on se demande, hein. Moi je me suis demandé, là j'étais en formation toute cette année, des fois je me demandais si je n'étais pas en train de me former à un métier qui risque de disparaître.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent les vieux apiculteurs quand vous en parlez avec eux?
Alors ça dépend, mais il y en a quand même une bonne proportion qui nous disent qu'on est fous, que dans le contexte actuel ils ne s'installeraient pas. Et puis, il y en a d'autres qui nous soutiennent, qui trouvent ça extrêmement positif qu'il y ait des jeunes qui veuillent s'installer. Moi, j'ai 36 ans.
36 ans, c'est jeune.
Donc, j'ai toute une vie professionnelle avant l'apiculture. Je faisais tout autre chose. Je travaillais dans des bureaux et je travaillais beaucoup sur l'accompagnement à la création d'entreprises en milieu coopératif.
D'accord.
Donc, absolument rien à voir avec les abeilles.
Avec les abeilles, non.
Même si la création d'entreprise, du coup, c'est un atout aussi pour
bien sûr, pour monter après pour votre installation, bien sûr.
Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre encore.
Ouais. Et les abeilles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre aussi, je pense.
Oui.
Comment sauver les abeilles ? Un reportage de Corinne Cutillat avec Pierre-Alain Pédebernade pour la prise de son et Stéphane Desmonts au mixage. À la suite de ce reportage, Corinne Cutillat a interrogé Gérard Bapt, député socialiste de Haute-Garonne, qui a proposé avec Delphine Bateau, elle aussi députée PS, l'amendement d'interdiction des néonicotinoïdes en France. Corinne Cutillat lui a d'abord demandé pourquoi vouloir interdire ces pesticides alors que l'Union européenne a déjà prononcé un moratoire contre certains d'entre eux.
Alors, concernant trois néonicotinoïdes, ceux qui sont les plus utilisés, elle n'a pas interdit, mais elle a restreint l'usage, c'est-à-dire qu'elle a restreint à certains types de cultures d'une part et à certaines périodes d'autre part pour écarter les mois où les abeilles pouvaient être le plus exposées. Lorsqu'elles vont vers les fleurs dans les champs cultivés. Mais le problème de la limite de cette interdiction qui est donc ponctuelle, c'est qu'elle est aussi temporaire. Mais nous avons voulu insister sur le fait qu'il s'agit plus que de trois produits en particulier, des effets d'une famille, puisque les néonicotinoïdes, ils proviennent tous d'une structure chimique particulière qui est dérivée de la nicotine. Puis par ailleurs, ces produits sont de plus en plus vendus dans le monde entier et leur consommation est exponentielle. Par contre, leur toxicité, elle commence à être maintenant bien connue en ce qui concerne les insectes pollinisateurs. Elle est bien connue aussi en ce qui concerne les arthropodes, parce qu'avec les eaux de pluie, de ruissellement, ces substances passent dans le sol et tuent par exemple les vers de terre, ou tuent dans les rivières et les cours d'eau les arthropodes. C'est-à-dire qu'on va non seulement les retrouver en termes d'affaiblissement de la biodiversité, mais aussi on les retrouvera aussi dans la chaîne alimentaire, puisque ces arthropodes, dans l'eau, ils sont mangés par les poissons qui ensuite sont mangés par d'autres êtres vivants dans l'homme.
Ouais, donc ça pollue tout, ça pollue l'eau, donc la chaîne est toute faite, quoi.
Alors la difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études sanitaires concernant les effets sur l'homme de ces produits. Sauf une étude qui est parue au Japon et qui a montré en relation avec un néonicotinoïde qui est le gaucho, qui à l'heure actuelle est largement retiré en Europe, mais qui continue à être utilisé au Japon. Les Japonais, mangeant beaucoup de fruits et légumes et buvant beaucoup de thé, ce produit passant aussi dans l'arôme du thé, on a des séries comme ça d'intoxication subaiguë, donc, et de citoyens japonais qui arrivent dans les hôpitaux en intoxication subaiguë due à ce néonicotinoïde. Mais c'est la seule étude sanitaire à l'heure actuelle dont on dispose.
Ça peut donner quelles conséquences alors justement sur la santé ? Ça peut provoquer quoi ?
Alors il y a des toxicités viscérales. rénales, hépatiques, il y a des troubles du système cardiovasculaire, il y a des nausées, des vomissements, donc ce sont vraiment des intoxications subaiguës qui conduisent ces patients dans les hôpitaux. Et on peut donc penser que s'il y a intoxication subaiguë, eh bien, l'exposition chronique ne peut pas être sans effet sanitaire à long terme.
Ceci dit, l'idéal, ce serait quand même que les Européens s'en mêlent aussi, parce que je suppose que les abeilles ne connaissent pas de frontières. Et comment réagissent justement nos pays frontaliers, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ?
Alors, la Commission européenne n'est à l'heure actuelle pas très sensible à nos arguments. La preuve, c'est que cet été, elle vient d'autoriser un nouveau pesticide qui s'appelle le sulfoxaflor, qui a été autorisé aux États-Unis puis retiré des États-Unis et qui vient d'être, de manière assez surprenante, choquante, autorisé en Europe, en demandant parallèlement que dans les 2 ans qui suivent, l'effet éventuel sur les abeilles soit étudié. C'est-à-dire qu'on commence à autoriser et ensuite on demande quels seront les effets néfastes sur la biodiversité. Ce sont des procédures qui sont bien entendu plus sensibles aux arguments économiques et du lobby chimique à Bruxelles que simplement au bon sens. On étudie d'abord et on autorise ensuite éventuellement.
Combat difficile à mener, donc vous y croyez, vous accrochez, vous continuez à répondre aux cris d'alarme des apiculteurs notamment.
Bien entendu qu'il faut s'accrocher. Vous savez, il y a plusieurs sujets de ce type-là à l'échelon européen sur lesquels on bute. Voilà, il y a l'argument économique, bien entendu, mais il y a aussi la discussion scientifique qui est parfois difficile et ces industries ont aussi leurs scientifiques en quelque sorte qui sont là pour troubler les cartes. Alors même que l'argument que nous leur opposons, c'est que ces entreprises devraient s'orienter vers la recherche de solutions qui soient compatibles avec la biodiversité. L'écochimie ou un abord écologique de la façon dont on peut aujourd'hui répondre à certaines urgences, effectivement, visant à protéger nos productions.
Merci beaucoup.
Et merci à Corinne Cutillat pour cet entretien. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée par Stéphane Combe. C'est Zora Bensmaïli qui réalise notre page internet sur le site de France Inter. Après le journal de 10h, vous retrouverez Eva Bester et son remède à la mélancolie. À dimanche prochain.